Fally Badou. Vos invités ce matin sont journalistes politiques au Parisien.
Et elle publie chez Plomb, Madame la Présidente, une enquête fouillée sur Brigitte Macron, Ava Jamshidi et Nathalie Fuchs. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Fally Badou.
Et bienvenue, des mois d'enquête. Vous avez rencontré des élus, des ministres, des intimes, des conseillers, des artistes. Et surtout Brigitte Macron, elle qui parle très peu aux journalistes, qui est assez secrète et discrète. Comment l'avez-vous convaincue de vous parler, Nathalie Fuchs?
Alors, de façon assez simple, on a prévenu assez tôt, par correction, son cabinet qu'on allait faire un livre sur elle. Et comme on l'explique dans le livre, c'est un peu compliqué entre la communication de madame et la communication de monsieur. C'est-à-dire que le cabinet du président de la République considère que moins la première dame est présente dans les médias, mieux c'est, parce qu'elle prend un peu trop la lumière, parce qu'elle prend... Elle est supposée prendre un peu de popularité au président de la République. Et donc Brigitte Macron a accepté de nous voir de façon assez fine, c'est-à-dire qu'on se rendait à l'Élysée et elle apparaissait opportunément. Des jours, on était là, nous disant « Ah tiens, vous êtes là, vous !» Et donc, on parlait 45 minutes.
Comme par surprise, presque, on peut dire. Surprise.
Comme par surprise.
C'était fait assez finement.
Et du coup, vous avez à la fois développé une étude de caractère dont on va parler dans un instant, mais il y a son rôle politique, évidemment. Vous racontez l'histoire de cette femme qui est passée en 3 ans à peine de l'anonymat d'une salle de classe à la lumière des dîners d'État avec les dirigeants de la planète. Et voilà ce que vous écrivez côté pile. C'est une première dame soucieuse de bien faire, investie dans ses missions. Côté face, une conseillère spéciale dont le cabinet présidentiel cherche méthodiquement à minorer le poids. Comment évaluer justement son poids politique, Brigitte Macron ?
Il y a ce qui nous a semblé important de raconter dans ce livre, c'est à quel point l'image qu'elle a est très différente de son rôle. C'est-à-dire que Brigitte Macron, c'est la personne avec qui le chef de l'État débrief, c'est la personne qu'il consulte et c'est également une personne qui a déniché quelques personnalités qui sont extrêmement importantes au sein du gouvernement, comme Jean-Michel Blanquer.
Alors, raconter l'histoire de Jean-Michel Blanquer, c'est assez sidérant, c'est une manière assez curieuse de former un gouvernement, mais en l'occurrence, il y a les amendements Brigitte.
Ouais, aussi, il y a des ministres qui savent qu'elle a du poids, qui savent qu'elle compte, qui savent qu'elle fait des retours à son mari le soir. Ils ont une espèce de tradition de débrief au quotidien. Et ils essaient de jouer un peu de cette influence pour pouvoir pousser des amendements et bypasser les conseillers techno.
Jean-Michel Blanquer, donc, comment est-il recruté, Nathalie Fuchs?
Alors, la veille de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron...
Écoutez bien, d'ailleurs, je m'adresse à Thomas Legrand, Nicolas Demorand, Dominique Seux, vous serez peut-être un jour ministre.
Donc, Brigitte Macron est derrière, son poste pour écouter une radio concurrente, qu'on ne citera pas, et elle entend un certain Jean-Michel Blanquer, Europe 1, tout à fait, qui est patron de l'ESSEC. Elle l'entend parler de la méthode globale d'apprentissage, etc., des violences scolaires, et elle a une espèce de coup de foudre intellectuel. Elle décide d'acheter son bouquin, d'en faire une fiche de lecture, et elle dit à son mari, lui, tu devras le rencontrer, vraiment. 6 mois plus tard, la voix dans le poste devient ministre de l'Éducation nationale et va remercier sa bienfaitrice.
Alors, toujours pour mesurer son poids politique, donc elle peut faire basculer une décision, par exemple, au moment d'un remaniement, c'est arrivé ?
Oui, tout à fait. Elle peut accorder, par exemple, sa protection avant l'été. Il était question de faire un gros remaniement qui a eu lieu, finalement, qu'à l'automne. Et elle souffle des petits mots à son mari en lui disant, moi, tant que tu gardes ma copine Marlène Schiappa, tout va bien. Elle a aussi une protection à l'époque sur Gérard Collomb, elle aimait beaucoup. Au moment où ça a chauffé un peu, c'est elle qui a organisé, qui a pris l'initiative d'organiser un dîner entre Emmanuel Macron et lui pour essayer d'affiner, de réconcilier un peu les choses. Récemment, on l'a vu, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, ancien député LREM qui a été nommé, c'est elle qui, depuis le début du quinquennat, pèse pour ça. Donc, elle ne se mêle pas du fond des réformes de la France. Ça n'est pas Brigitte Macron qui décide s'il faut désindexer les retraites de l'inflation ou geler le point d'indice des fonctionnaires. En revanche, elle a son poids, elle a son mot à dire sur les remaniements.
Et sur la com aussi. Et là, pour le coup, elle ne chuchote pas. Il lui arrive très régulièrement de parler fort, très fort, de faire trembler les murs de l'Élysée.
Oui, tout à fait. Et parfois même de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que les collaborateurs du chef de l'État peuvent lui dire. Par exemple, elle a entendu sur votre antenne Nicolas Hulot annoncer sa démission du gouvernement. Et il y a eu tout un débat à l'Élysée pour dire, voilà, est-ce que au moment du départ de Nicolas Hulot, est-ce que le président ne devrait pas le raccompagner sur le perron de l'Élysée? Et c'est plus proche collaborateurs plaidaient pour qu'il le fasse. Brigitte Macron, elle, n'a pas du tout apprécié la manière du ministre de l'Environnement. Elle lui a dit qu'elle trouvait que cela avait été minable. Et le lendemain, que s'est-il passé? Eh bien, le chef de l'État n'a pas raccompagné Nicolas Hulot sur le perron de l'Élysée. Les dernières images que l'on retient de lui sont celles de ses larmes lorsqu'il a quitté le ministère.
Il y a aussi une guerre à l'Élysée. C'est assez frappant. C'est même extrêmement brutal. On sait que la politique, c'est violent, Nathalie Chuc. Mais en l'occurrence, on voit qu'il y a un premier cercle, le premier cercle du président de la République, ceux qu'on appelle les Mormons. Qui sont-ils et pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça?
Les Mormons, ils se surnomment comme ça. En fait, ce sont les conseillers qui ont aidé Emmanuel Macron à conquérir le pouvoir, qui sont avec lui depuis quasiment un quinquennat, puisqu'ils l'épaulent depuis l'époque de Bercy. Et au fond, ils ont vécu en intimité avec lui depuis cette époque. Pendant la campagne, ils l'ont vu dans les loges, ils l'ont porté jusqu'au sommet de l'État, et ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation...
Ces hommes, ces femmes, c'est Ismaël Émilien, par exemple.
Ismaël Émilien, Stéphane, ces journées, ça va être dans une moindre mesure...
Sylvain Faure, Benjamin Griveaux.
Exactement. Enfin, c'est eux qu'on appelle les Mormons. Il y a une image pour vous les situer. Le jour de la passation de pouvoir, ils avaient été très critiqués parce qu'ils étaient arrivés en meute sur le tapis rouge de l'Élysée avec un côté très vainqueur, très conquérant, et ils ont gardé cet état d'esprit ensuite. Ils ont fini par voir la première dame, qui continue, elle, à vivre dans l'intimité du chef de l'État, comme une sorte de rivale qui venait contrecarrer leurs arbitrages, qui l'avait un peu pour elle toute seule, et qui surtout, de leur point de vue, lui prend la lumière, lui prend de la popularité, et est devenue l'espèce de capital empathie, à un moment où le chef de l'État serait l'homme qui méprise les Français à coups de petites phrases arrogantes, donc ça finit par creuser un fossé.
Qu'elle meure.
Alors ça, c'est un proche.
Ça, c'est fou.
Macron, qui nous l'a dit, qui considère que la guerre froide, parce qu'on peut vraiment parler de guerre froide, est tellement puissante, c'est parti tout seul un jour dans une conversation, ce proche qui nous dit, mais au fond, il rêve qu'elle meure, ce veuf est pleuré, pour eux ce serait formidable, en termes de communication, il pourrait en fabriquer quelque chose d'absolument génial, et un autre proche nous a dit, mais au fond, ce qu'il voudrait, c'est qu'elle dégage.
Et du coup, on l'efface même au sens strict du terme, c'est le cas par exemple au moment des journées du patrimoine en 2017 sur le catalogue.
Oui, il y a un petit fascicule qui avait été préparé avec des photos des personnalités qui travaillent à l'Élysée. Donc évidemment le chef de l'État, le secrétaire général Alexis Kohler, même le chien Nemo, mais il n'y avait pas de Brigitte Macron. Donc le président, quand il voit qu'il reçoit ce document, se rend tout de suite compte donc que son épouse manque dans les clichés qui sont proposés. Il se fâche lui-même. Hein. Il dit ce n'est pas possible. Il demande à ce que tout parte au pilon. Et c'est arrivé ce genre de moment où il y a où cette guerre s'exprime entre les collaborateurs et Brigitte Macron, leur crainte de voir son capital empathie dévorer d'une certaine manière celle du chef de l'État. On l'a aussi vu notamment lors du déplacement qu'il fait aux Antilles. Il y a eu tout un débat autour du fait que Brigitte Macron soit présente ou non.
On lui a fait comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue.
Oui. Ouais,
tout à fait. Les Mormons ne voulaient pas de Brigitte Macron pendant ce déplacement.
Et d'ailleurs, elle n'est pas là pour fliquer la communication. Et le président fait une série de photos d'ailleurs avec deux jeunes hommes. Et c'est une histoire qu'on connaît tous. C'est assez frappant de voir toutes les vacheries qu'elle a reçues et qu'elle continue de recevoir. Les commentaires désobligeants sur son âge, sur son physique. On lui parle même de son chirurgien esthétique, l'un de ses...
Un jour, elle reçoit quelqu'un à son cabinet, une femme, qu'on ne citera pas, qui, à la fin du rendez-vous, lui dit « Tenez, voici les coordonnées de mon chirurgien esthétique, il fait des choses très bien, sous-entendu, vous devriez peut-être aller le consulter. » Et elle prend ça un peu avec dérision, parce que c'est quelqu'un qui a une arme, c'est l'humour, elle dit tout le temps « ma gueule ». Voilà, « ma gueule », c'est le problème, c'est le souci, d'ailleurs, une blague récurrente chez elle, il fallait absolument qu'Emmanuel se présente en 2017 et pas en 2027, parce qu'en 2027, son problème, ça aurait été « ma gueule ». Donc ça revient absolument tout le temps dans son discours.
Il faut essayer de comprendre dans sa tête comment est-ce qu'elle perçoit ce moment dans lequel on vit, le mouvement des Gilets jaunes. Elle est comparée à Marie-Antoinette sur beaucoup de ronds-points. Cette accusation, elle est injuste. Il y a ce slogan « Rends la vaisselle, Brigitte ».
Alors, ça reste quand même une grande bourgeoise de province. C'est quand même quelqu'un qui a grandi dans une famille de chocolatiers très prospère et qui est marquée par son milieu social. Donc, à la fois, elle a une bonne intuition, elle sent bien le pays quand même, c'est quelqu'un de très intuitif, peut-être plus que son mari, et pour autant, elle est parfois marquée par son milieu social. On cite un exemple qui nous a beaucoup frappé, c'est sans doute sa plus grosse faute de communication. Quelques jours avant le saccage de l'Arc de Triomphe et l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, elle reçoit avec son mari à l'Élysée des journalistes du Monde pour leur présenter la nouvelle décoration. Donc on est en pleine crise des Gilets jaunes et on a la Première Dame et le Président de la République qui nous vantent un coup de peinture à 1,5 million d'euros pour au moment où il y a des smicards qui finissent pas à la fin du mois. Là, énorme faute de communication et ça vient de son milieu d'origine. Elle est parfois un peu déconnectée.
Votre livre paraît à un moment très particulier, celui où le Président de la République cherche à reprendre la main. Est-ce que Brigitte Macron a lu votre livre ? Vous savez ce qu'elle en a pensé ?
On ne sait pas. On leur a envoyé, par correction. On lui a envoyé à elle par correction. On pense qu'elle a dû lire.
On sait qu'elle l'a feuilleté. On sait que ses collaborateurs l'ont regardé évidemment et qu'elle l'attendait avec une certaine anxiété, ce qui est bien normal.
Il est question de Brigitte Macron dans les enregistrements d'Alexandre Benalla que rendait public hier Mediapart. Benalla dit qu'il a le soutien du patron, mais aussi de Madame. Quel peut avoir été son rôle dans cette histoire-là ?
Alors, Alexandre Benalla, c'était le couteau suisse des Macron. C'est l'homme qui allait acheter des places de théâtre et qui accompagnait Brigitte Macron dans ses sorties en ville, par exemple, quand elle allait déjeuner avec ses amis. Donc, elle le connaît très bien.
Merci à toutes les deux. Madame la Présidente, c'est publié chez Plon. Très bonne journée.